Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 21 septembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Pourquoi Macron a demandé à s'entretenir avec Raïssi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, de la fronde dans l'air? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Sommaire de ce journal, la défense sacrée était une guerre internationale imposée contre l'Iran, déclaration du leader de la révolution islamique ce matin. Le président iranien demande des garanties pour l'accord nucléaire et la clôture de son dossier contre-productif à l'AIOA lors d'une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Au lieu de verser des larmes de crocodile, les États-Unis doivent mettre fin au terrorisme économique, déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran affirme que les grandes puissances mondiales vont tenter de renverser la République islamique en soutenant l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. S'exprimant à l'occasion de la semaine de la défense sacrée en Iran, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei a déclaré que l'Occident et l'ex-Union soviétique avaient l'intention de mettre l'Iran à genoux. Les États-Unis voulaient également que la guerre serve d'avertissement aux autres nations afin qu'elles ne se dressent pas contre Washington, a encore déclaré le leader. Il a ajouté que les Occidentaux reconnaissent aujourd'hui, et cela ouvertement, qu'ils avaient de tels objectifs. Il a noté que les Iraniens ont cependant su renverser les complots des ennemis grâce à leur résistance. Le très haut dirigeant iranien a déclaré que même si la guerre imposée était une expérience amère, mais les Iraniens ont su transformer les menaces du jour en nouvelles opportunités, parmi lesquelles le renforcement des capacités militaires et de défense du pays. L'Irak de Saddam a mené une guerre imposée de 8 ans contre l'Iran, un an seulement après la victoire de la révolution islamique en 1979, qui a renversé le régime despotique de Pahlavi, soutenu par les États-Unis. Durant la guerre imposée, l'Irak bénéficiait entièrement du soutien des États-Unis et de leurs alliés. En pleine guerre dévastatrice et sanglante, les mêmes pays refusaient à l'Iran tout accès aux armes étrangères. À l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la guerre imposée, 1980-1988, le guide suprême de la révolution islamique a souligné, dixit, « Un jour, nous avons affirmé que notre guerre était une guerre internationale. Et aujourd'hui, les documents et les preuves publiés en Orient et en Occident l'attestent. » le guide suprême de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a tenu ses déclarations à l'occasion d'une audience accordée ce mercredi à un groupe de commandants et des vétérans de la défense sacrée à Hosseini et de l'imam Khomeini à Téhéran. Le leader, considérant les vétérans iraniens de la défense sacrée comme un exemple du noble verset du Coran, à savoir les prisonniers, a souligné, ce sont eux qui ont reconnu le besoin urgent et la nécessité d'une intervention plutôt que les autres et se sont précipités vers le champ de djihad de la lutte pour y faire face. Son éminence a considéré la tâche de rendre hommage à la mémoire des vétérans de la défense sacrée comme un devoir collectif et a ajouté « La défense sacrée est une ère passionnante, mouvementée, significative et bénéfique et l'un des événements qui avait un effet sur notre hier et en a toujours sur notre aujourd'hui et notre demain. Donc les vétérans de cet événement important sont absolument dignes d'attention et de respect », a-t-il conclu. Le président iranien a déclaré qu'il ne serait pas possible de parvenir à un accord sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 en agonie sans clôturer le dossier de Téhéran devant l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ibrahim Raïssi a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président Raïssi a déclaré que l'AIOA a officiellement reconnu, et cela à 15 reprises, que les activités de l'Iran sont pleinement conformes à ses engagements. Il a également déclaré à l'adresse de son homologue français Emmanuel Macron que les signataires européens devaient prouver que leurs politiques étaient indépendantes des États-Unis et qu'ils ne sont pas suivistes. Le président iranien a également abordé la question nucléaire lors d'une réunion séparée avec le président suisse Ignacio Cassis. Il a déclaré qu'il était raisonnable pour Téhéran d'exiger des garanties pour un accord durable et fiable, compte tenu de l'historique et des antécédents du comportement de Washington et de la manière dont il a quitté l'accord. En 2018, Washington s'est unilatéralement retiré de l'accord multilatéral sur le programme nucléaire iranien et a réimposé des sanctions illégales à Téhéran. Plus tôt cette semaine, le président iranien a déclaré aux réseaux d'information CBS que l'Iran ne pouvait pas faire confiance aux États-Unis avec ce qu'il a appelé des promesses dénuées de sens sur l'accord nucléaire. Ibrahim Raïssi a dit « sérieux l'Iran pour la relance de l'accord multilatéral sur le nucléaire de 2015 et les négociations à cet effet ». Il a toutefois noté que cela dépendra d'une réponse pertinente de Washington à la question des garanties sur la pérennité de l'accord en agonie abandonné unilatéralement en 2018 par les États-Unis de Trump. L'Iran veut des garanties plus solides à inclure dans la proposition d'un projet d'accord soumise par l'Union européenne sur le dossier du nucléaire. L'Iran exige également que l'Agence internationale de l'énergie atomique se concentre sur sa tâche technique et s'éloigne de tout rôle partial et politisé. Critiquant la demande de résolution du Conseil des gouverneurs contre l'Iran par 3 pays européens alors que les négociations sur le nucléaire se poursuivent, Raïssi a décrit ces approches non constructives qui compliquent les problèmes. Le président iranien, qui se trouve à New York pour participer à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a rencontré et discuté avec le président français, le président du Conseil européen, le président bolivien, le premier ministre pakistanais, le premier ministre irakien et le président suisse. Au lieu de verser des larmes de crocodile, les États-Unis doivent mettre fin au terrorisme économique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, tout en critiquant les déclarations interventionnistes des autorités américaines suite à la mort d'une jeune femme iranienne, a déclaré qu'au lieu de verser des larmes de crocodile, les États-Unis doivent mettre fin à leur terrorisme économique visant l'Iran. Hossein Amir Abdollahian, en visite à New York, afin de participer à la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, a écrit mardi dans un tweet « Une enquête a été ordonnée sur la mort tragique de Mahsa, qui, comme l'a dit le président, était comme nos propres filles. » Pour l'Iran, les droits de l'homme ont une valeur intrinsèque, contrairement à ceux qui y voient un outil contre leurs adversaires. Le président iranien Ibrahim Raisi a ordonné une enquête approfondie sur le cas de la jeune femme qui s'est effondrée dans un poste de police mardi dernier et est décédée 3 jours plus tard après avoir été transférée dans un hôpital de la capitale iranienne. Lors d'un appel téléphonique dimanche, le président iranien a présenté ses condoléances aux membres de la famille de Mahsa Amini. J'ai été informé de cet incident alors que j'étais en voyage en Ouzbékistan pour assister au premier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. J'ai immédiatement ordonné à mes collègues au sein du gouvernement d'enquêter sur ce cas particulier, a-t-il déclaré à la famille d'Amini. Le président Raisi a assuré à la famille de la femme décédée que tous les efforts seraient faits pour protéger ses droits. Sachez également que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a une fois de plus dénoncé l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Iran. Certains pays avec une longue histoire de bellicisme et de violence ne sont pas en position de prêcher les autres sur la question des droits de l'homme, a déclaré le diplomate. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, réagissait aux allégations indiscrètes, selon ses mots, avancées par certaines autorités américaines et européennes sur le cas de Mahsa Amini. Il a conseillé à ces pays d'éviter l'opportunisme et l'utilisation instrumentale, partielle et partiale des droits de l'homme. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Pourquoi Macron a demandé à s'entretenir avec Raisi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU? De la fronde dans l'air? Est-ce l'effet AUKUS ou la perspective d'un hiver sans chauffage? Le samedi 18 septembre, juste avant que l'Iranien Raisi ne prenne l'avion à destination de New York, où il est attendu pour prononcer un discours devant la 77e Assemblée de l'ONU, le porte-parole de la diplomatie iranienne a laissé entendre que la délégation accompagnant le président ne comptait pas pour rien le négociateur en chef iranien à Vienne, Boeri, et que s'il intéressait se déplacer aux États-Unis, c'est parce qu'il était disponible à négocier avec les partis européens, moins les États-Unis. Cette fenêtre ouverte, alors même que les Yankees ont carrément pris en otage la proposition européenne autour du nucléaire iranien et qu'ils font tout pour tuer le temps et pousser au bord de la folie un trio européen en manque, criant du pétrole et du gaz, voulait dire, on s'en doute, que l'Iran est prêt à vendre de l'énergie à l'Europe, et ce, évidemment, par ses circuits habituels, c'est-à-dire en contournant les sanctions US. Les réactions paniquées côté Europe n'ont pas tardé. Il y a eu d'abord la ministre française des Affaires étrangères qui, par crainte d'avoir, en disant oui à l'Iran, a lésé les États-Unis, a affirmé « Il n'y aura pas de meilleure offre sur la table et c'est à l'Iran de prendre les bonnes décisions », a déclaré lundi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna aux journalistes en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, affirmant que la fenêtre d'opportunité est sur le point de se fermer. Ne vous attendez pas à des progrès sur la question cette semaine lors du rassemblement annuel des dirigeants mondiaux, a-t-elle dit. Va ensuite la réaction de Borrell, homme par qui est venu le dernier paquet de propositions visant à permettre la levée des sanctions US contre l'Iran, paquet que les Américains ont ligoté puisque refusant d'y répondre. Joseph Borrell, le coordinateur des négociations, a déclaré aux journalistes à New York qu'il ne voyait aucune perspective de progrès lors de la réunion des dirigeants mondiaux cette semaine. Bref, que New York n'était pas un lieu à dealer sur le dos des Américains. Mais voici qu'une information qui vient tout droit des États-Unis évoque une rencontre Macron-Raïssi en marge de la 77e Assemblée, rencontre à effectuer à la demande du Français qui a vécu cette semaine la deuxième semaine de grogne anti-OTAN dans les rues du pays, grogne qui a mobilisé des centaines de ses compatriotes. Qui ne comprennent toujours pas pourquoi il faudrait se battre contre la Russie et se priver de son gaz, comme ils n'ont jamais compris pourquoi Total a été forcé à quitter l'Iran ou Renault à mettre les verrous sur ses usines pour cause de sanctions anti-iraniennes. Alors que le marché de 80 millions de consommateurs iraniens crée des milliers d'emplois en France. Cette rencontre qu'a demandé Macron s'inscrit-il dans le cadre d'une fronde anti-US ou s'agit-il, comme toujours, d'un Macron porte-voix de la Maison-Blanche qui veut s'entretenir avec son homologue iranien? L'Europe a sérieusement besoin de l'accord nucléaire avec l'Iran. Le processus de relance de l'accord nucléaire a achoppé, les points de vue se sont opposés, les positions des partis ont divergé, les mauvaises intentions ont dominé les pourparlers et le chantage mutuel a rendu l'accord quasi impossible. Mais au fond d'elle, l'Europe sait que tout ceci n'est qu'un spectacle, car c'est l'Amérique qui ne le veut pas. Les Européens ont essayé de toute leur force de faire aboutir les négociations de Vienne, mais en vain. Et maintenant, en pleine crise énergétique, conséquence directe de la guerre en Ukraine, ils voient dans le retour de l'Iran sur le marché leur unique source de salut. Même le chancelier allemand, jusqu'ici plutôt serein, et qui s'apprête à se rendre cette semaine dans le Golfe Persique, veut le faire non pas pour avoir davantage de pétrole golfien qui est produit à plein régime, mais pour se rapprocher de l'Iran dans l'espoir d'en pouvoir toucher l'or noir. Pour l'Europe, l'augmentation de la production pétrolière et gazière iranienne serait l'unique voie de sortie de la situation difficile actuelle. D'ailleurs, c'est en argumentant contre la Russie qu'ils essaient de convaincre les États-Unis, ce qui crée même par endroits des tensions avec la Maison-Blanche. Macron sera-t-il en période de fronde anti-US ? Il y en a des indices d'une colère sourde qui cherche une voie à s'exprimer, mais qu'il ne le trouve pas facilement. Les États-Unis imposent leurs lois économiques à la France, des sanctions économiques à la France, notamment en imposant des sanctions ou en acquérant des entreprises et des banques, et pratiquent également l'espionnage avec la Central Intelligence Agency et la sécurité nationale autorisée par le Patriot Act. La France est soumise à l'hégémonie économique américaine comme divers pays européens et ses sociétés commerciales font l'objet de pressions et de sanctions financières.
Bonjour à tous et bienvenue sur nos plateaux de télévision à Presse TV ici à Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, connue au niveau international, représentant la moitié de la population mondiale, rien qu'en comptant les pays d'Asie et d'Eurasie. Il y a eu une réunion ce jeudi et vendredi en Ouzbékistan. Et en marge de cette réunion d'organisation, il y a eu différentes rencontres, notamment Xi Jinping et Poutine, mais pas que. Également, Xi Jinping est là ici ce matin, vendredi. Alors, l'OCS, une organisation extrêmement importante à l'heure actuelle, parce que représente, comme je l'ai indiqué, la moitié de la population, mais pas seulement. Il s'est énormément développé, nous montrant un pôle uni contre l'Occident, contre les États-Unis, et permettant pour un pays comme l'Iran et d'autres pays également de passer outre les sanctions. En effet, grâce au fait que l'Iran est devenu membre de l'Organisation mondiale, de cette organisation de coopération, eh bien, l'Iran a déjoué plus ou moins les sanctions que les États-Unis leur avaient imposées, qui les avaient un petit peu mis à part par rapport aux autres pays, empêchant toute coopération, empêchant également des relations économiques avec les autres pays, le point le plus important. Alors, que s'est-il passé ce week-end, enfin ce jeudi, ce vendredi? Que peut-on envisager? Comment peut-on envisager le futur de l'OCS et surtout avec l'Iran? Tout de suite va commencer notre reportage. Je vous tiens après avec nos deux invités pour le débat.
L'Iran a signé jeudi un mémorandum pour adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai. OCS a rapporté l'agence de presse publique russe TASS. Fondée en 2001, l'OCS est une organisation intergouvernementale de coopération en matière de sécurité comprenant la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et un certain nombre d'États post-soviétiques. L'Iran était auparavant un membre observateur. L'une des tâches importantes de ce sommet consiste à finaliser des documents de l'OCS pour qu'ils soient signés par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, annonçait M. Raisi. Téhéran, observateur de l'Alliance régionale depuis 2005, a obtenu son adhésion lors du dernier sommet de l'OCS en 2021 au Tadjikistan. L'Iran veut utiliser au mieux le pouvoir économique et les capacités de la région ainsi que des pays asiatiques au profit de la nation iranienne, a indiqué M. Raisi. Lors du sommet, de nombreuses rencontres entre chefs d'État étaient prévues, mais une attire particulièrement l'attention. Les présidents russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, se sont entretenus en marge du sommet. Et pour le maître du Kremlin, cette alliance est une alternative réelle aux structures orientées vers l'Occident. C'est une organisation qui est fermée aux États-Unis, à l'Occident ou encore au Japon et qui souhaite faire la publicité de la bonne entente sino-russe et aussi avec la République d'Asie centrale. Détail Emmanuel Véron, géographe, chercheur associé à l'École navale et à l'INACLO. La Chine est disposée à travailler avec la Russie afin de promouvoir un ordre international plus juste et raisonnable, a également affirmé en amont du sommet Yang Jiechi, le responsable de la diplomatie au sein du Parti communiste chinois. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Xi Jinping apporte son soutien à son ami Vladimir Poutine, ni que les diplomaties chinoises et russes évoquent la nécessité de mettre en place un nouvel ordre mondial.
Nous revoilà sur le plateau du débat. Comme le veut la tradition, le débat de deux personnes, deux invités. Nous avons donc aujourd'hui M. Philippe Hugon, reporter de guerre, et M. Luc Michel, géopoliticien. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à M. Hugon.
Bonjour à Jean-Luc.
Bonjour, bienvenue à nouveau avec nous de manière virtuelle sur le plateau de Presse TV à partir de Téhéran. Aujourd'hui donc, vous l'avez deviné, nous allons parler de l'OCS et également le besoin, par le biais de cette organisation, du besoin de l'Iran à l'heure actuelle. Pour commencer, je propose donc de commencer, si ça ne vous dérange pas, avec M. Luc Michel. Quelques mots sur donc ce sommet qui a lieu donc ce jeudi et vendredi.
C'est important parce que L'OCS est en train de se structurer en front anti-occidental et anti-américain. Et avec l'adhésion de l'Iran et le partenariat militaire Moscou-Téhéran, l'OCS est en train de se transformer en anti-OTAN, en alliance militaire, alors qu'il s'agissait surtout d'une alliance économique et géopolitique jusque maintenant. C'est la vraie communauté internationale avec Pékin, Moscou, Téhéran, mais aussi le Pakistan et l'Inde et 14 ex-républiques soviétiques. C'est presque 6 milliards d'hommes et de femmes quand l'Occident fait moins d'un milliard. C'est cela qu'il faut retenir. La vraie communauté internationale, c'est la communauté du monde multipolaire. C'est très important aussi, c'est de voir l'Inde et le Pakistan dans l'OCS, puisque jusque maintenant, l'Inde était un partenaire militaire de la France et des États-Unis dans l'océan Pacifique. Et le Pakistan était depuis les années 1970 le principal partenaire militaire des États-Unis. Aujourd'hui, avec leur participation à l'OCS, ils sont en train de se détourner. Il est encore intéressant de suivre qu'il y a un État membre de l'OTAN qui est là comme observateur à la Réunion, c'est la Turquie. C'est une ligne de fracture de plus au sein du bloc américain occidental. Ceux qui racontent que la Russie dans le dossier ukrainien est isolée, eh bien, le sommet de l'OCS est en train de démontrer qu'il n'en est rien.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, voulez-vous rajouter quelque chose à ce que Monsieur Luc Michel vient de dire ?
Oui, alors moi je dirais qu'en fait aujourd'hui le monde occidental paye un peu ses erreurs du passé. Et quand je parle d'erreurs du passé, c'est un demi-siècle, hein. C'est une cinquantaine d'années. Donc il y a très longtemps qu'on aurait dû incorporer dans des relations multilatérales avec l'Inde, le Pakistan et bien sûr l'Iran. On a cherché à marginaliser un petit peu ces relations avec tous ces pays, avec la Chine, avec la Russie. Alors bien sûr, le monde occidental aujourd'hui a une excellente excuse avec le conflit ukrainien que les Russes ont déclenché en Ukraine. Donc ça fait une excuse supplémentaire pour le monde occidental de façon à marginaliser un petit peu les pays un peu, entre guillemets, je dirais, dissidents. Donc moi, je suis ravi de voir que l'OCS est en train de fédérer un certain nombre de grandes nations, et pas seulement des grandes nations, mais également d'ex-républiques soviétiques, et ce qui permettra de rééquilibrer, je dirais, la situation, puisque depuis, depuis une cinquantaine d'années, on voyait l'Occident qui se permettait d'ingérer d'une façon permanente dans les affaires d'État et des affaires qui ne les concernaient pas et qui imposaient un certain dictat à la fois financier, commercial et politique. Donc personnellement, moi je suis vraiment ravi de ce qui arrive aujourd'hui en espérant que ce déséquilibre puisse rééquilibrer une situation face au monde occidental qui s'est permis de faire un peu n'importe quoi.
Merci, Monsieur Philippe Hugon. Donc, pour résumer, c'est vrai, les pays se sont plus ou moins sentis isolés dans les pays d'Asie, ayant plus de relations avec les pays européens qu'avec leurs propres voisins, donc forcément provoquant des instabilités aux frontières. Il faut se rappeler, il y a pas 10 ans, la Chine et l'Inde voulaient, aux alentours des frontières du Tibet, étaient au bord de l'affrontement. À l'heure actuelle, 10 ans après, on est très très loin de ce genre de conflit au sein de l'Asie. Pourtant, il reste encore deux gros problèmes pour ces pays de l'OCS. Il y a Taïwan et il y a l'Ukraine. Et est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce que ce n'est pas la situation ukrainienne-taïwanaise qui ont poussé finalement en 2021 à accepter l'adhésion de l'Iran à l'OCS, Monsieur Luc Philippe ?
C'est la volonté tout à fait de Vladimir Poutine d'en finir avec le nouvel ordre mondial américain. En 1991, à la chute de l'Union soviétique, Bush père a proclamé le nouvel ordre mondial et Fukuyama a proclamé la fin de l'histoire. C'était la démocratie libérale et l'économie américaine qui l'emportaient et la superpuissance américaine a dominé le monde pendant 30 ans. Maintenant, c'est terminé. ça a des conséquences géopolitiques fondamentales. Vous savez qu'en géopolitique, il y a un affrontement fondamental entre d'une part les puissances maritimes représentées par la Grande-Bretagne au XIXe siècle et à partir de 1917 à 1943 remplacées par les États-Unis, et il y a une opposition contre la puissance continentale, ce que les géopoliticiens appellent le Heartland, le cœur du monde. Aujourd'hui, le cœur du monde, c'est l'Eurasie. Il est en train de s'unifier. C'est une défaite fondamentale pour les puissances maritimes. Les États-Unis, c'est une puissance sans histoire et sans civilisation. Le grand philosophe allemand Oswald Spengler disait que les Américains étaient passés de la barbarie à la décadence sans avoir connu la civilisation. Face à eux, il y a maintenant une alliance de vieux empires, de vieux états civilisations. La Russie, qui est la troisième Rome, qui est 27 siècles d'histoire derrière elle. La Chine, qui est l'empire du milieu, qui a plus de 20 siècles d'histoire. Et enfin, l'Iran, qui est l'héritière de la Perse, qui était déjà un empire avant Athènes, il y a 25 siècles. C'est cela, c'est la revanche des peuples avec une histoire et une civilisation contre l'anti-civilisation et la barbarie.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, vous-même reporter de guerre, ayant l'expérience de ce qui se passe sur le terrain, à l'heure actuelle, on est face à deux grands conflits de marge. Certains disent que si l'Occident et cette alliance occidentale qui existe avant les Premières et Secondes Guerres mondiales échouent, eh bien, c'est tout le monde entier, le multipolarisme qui va changer, mais donnant plus de force à cette Asie, et notamment avec le biais de cette organisation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, il est clair que l'équilibre mondial est en train de changer et que le clan, je dirais le clan occidental, a déjà perdu sur un certain nombre de domaines. On voit bien la décadence de nos sociétés occidentales. Hein, et il est vrai qu'aujourd'hui, la puissance financière chinoise fait qu'avec l'OCS, va pouvoir fédérer un certain nombre de pays. Et je vous dis bien, on est les responsables de cette situation. Pourquoi nous n'avons pas incorporé l'Iran depuis 30 ans dans les accords internationaux? Et plutôt que de marginaliser et prendre des points, je dirais pas des points de détail, mais des points politiques, hein, même s'ils étaient importants, de composer. Hein, on a bien vu le monde occidental composer avec un certain nombre de pays pour arriver à passer certains accords. Moi, je pense qu'on mélange un petit peu tout aujourd'hui, dans le sens où il faut que la diplomatie reprenne le dessus, que l'argent s'efface. Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et on le voit aujourd'hui dans tous les conflits depuis 30 ou 40 ans. L'argent joue un rôle déterminant, donc on n'a plus vraiment cet équilibre culturel, cet équilibre social, cet équilibre, je dirais, cet équilibre de bon sens qui permettait de désamorcer certains conflits, de désamorcer certaines situations conflictuelles. Et aujourd'hui, eh bien, je dirais que le monde occidental paye son manque de lucidité à long terme sur la politique internationale. Et aujourd'hui, on voit très bien avec l'OCS qui fédère toutes ces nations qui ont été mises un petit peu de côté par le monde occidental. Et aujourd'hui, eh bien, tout ceci montre bien que l'OCS est en train de rétablir l'équilibre, non seulement de rétablir l'équilibre, mais de prendre le dessus sur le monde occidental.
Merci, Monsieur Philippe Hugon. Alors, comme vous l'avez déterminé, l'Iran est quand même arrivé assez en retard dans cette organisation. Pourquoi ? Vous l'avez dit vous-même, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Avec toutes les sanctions que depuis la révolution, l'Iran doit subir, bien entendu, eh bien, les pays ont eu peur d'interagir avec l'Iran, ont eu peur de d'intégrer l'Iran dans les organismes ou juste d'en faire une relation économique. C'était extrêmement compliqué, mais finalement, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit une phrase très intéressante qui dit « ils ont fait des erreurs ». Est-ce qu'on peut dire, monsieur Luc Michel, que la première erreur a été de pousser les pays à ne plus faire attention aux sanctions, c'est-à-dire de ne plus valoriser les sanctions? Le premier problème a été ça, finalement. L'Iran est maintenant dans l'OCS, pas parce que les Russes et les Chinois et les Iraniens sont devenus des grands amis, mais par besoin, par nécessité réelle.
Écoutez, Xi Jinping a appelé hier la Russie et la Chine à prendre la direction du monde en tant que puissance responsable. Les Américains ont fait au début du dossier ukrainien une erreur fondamentale, un excès d'hubris, c'est-à-dire l'arrogance que donne la puissance. Ils ont cru que cette guerre des sanctions qu'ils imposaient à des petits États allait marcher contre un État continent comme la Russie. Et ils ont échoué. La fin du nouvel ordre mondial a une conséquence économique. C'est la fin de la globalisation américaine, la dédollarisation du monde, la fin des institutions mondiales, banques mondiales, fonds monétaires internationales, etc. Mais il y a aussi une conséquence évidemment militaire. L'Occident a cherché à neutraliser la Chine sur le dossier de Taïwan, à neutraliser la Russie sur le dossier de l'Ukraine. Il y a actuellement une intense propagande de guerre de l'OTAN qui fait croire que la Chine et la Russie auraient échoué, alors que c'est exactement l'inverse. Ce qu'il faut retenir le plus important depuis ces trois derniers jours, ce ne sont pas les déclarations principalement de Xi Jinping, mais du numéro 3 chinois. Le numéro 3 chinois a abandonné la neutralité de la Chine dans le dossier ukrainien. Il a déclaré que la Chine comprenait la Russie, que l'OTAN était l'agresseur et que depuis les premiers jours, la Chine aidait la Russie. C'est très important, évidemment, parce que les Occidentaux, en particulier Joseph Borrell au sein de l'Union européenne, comptaient sur la Chine comme un intermédiaire vis-à-vis de la Russie pour contribuer donc à ce que l'Occident gagne le dossier ukrainien. Ce ne sera pas le cas. C'est une déroute complète pour l'Union européenne qui est la grande perdante du dossier ukrainien. Mais c'est aussi une défaite américaine malgré toute l'aide apportée à l'Ukraine. Ce matin, il y a eu Poutine qui a menacé les États-Unis. Il a prévenu que si les États-Unis fournissaient des missiles à longue portée à l'Ukraine, la ligne rouge serait franchie et que les États-Unis deviendraient comme belligérant dans le dossier ukrainien, avec toutes les conséquences dommageables. C'est une révolution géopolitique. Il faut retenir que ce n'est pas un hasard tout ce qui se passe. Ceci a été planifié par Vladimir Poutine depuis le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie en 2014.
Merci, Monsieur Luc Michel. Pour repasser vers Monsieur Philippe Hugon, comme je l'ai indiqué plus tôt, si les Chinois et les Iraniens et les Russes sont redevenus, coopèrent, c'est pas par pure amitié. Si on regarde même historiquement parlant, on peut pas dire que ça a toujours été au beau fixe entre ces trois pays. Il y a donc bien une bonne raison pour laquelle finalement cette OCS se tourne vers l'Iran. C'est un peu le grenier, puisqu'il faut se rappeler que l'Iran est extrêmement riche dans ses sols, que ce soit au niveau minéral, que ce soit au niveau de l'énergie, gaz ou pétrole. Est-ce que donc il n'y a pas une raison bien géopolitique, comme l'a dit monsieur Luc Michel, concernant cette adhésion et également cette rencontre entre Xi Jinping ce matin et monsieur Raisi, première rencontre d'ailleurs entre ces deux chefs d'État?
Oui, alors il faut bien savoir que ce sont des alliances qui se font par nécessité, pas forcément parce que les gens ont des affinités, enfin que ces pays ont des affinités, mais que c'est un peu une obligation économique. Et puis, il faut bien savoir que derrière se tient en embuscade le monde occidental et les États-Unis, qui ne sont jamais en retard pour fomenter des mauvais coups. Donc, moi, je pense que, comme je vous le disais, nous sommes directement responsables, nous, monde occidental, de la situation actuelle. On a toujours imposé beaucoup de choses à plein de choses. Alors, moi, sur le conflit ukrainien, j'ai une position un petit peu différente parce que j'ai une position un peu d'humaniste dans le sens où, quand je vois tous ces gens se faire tuer pour de mauvaises raisons, Je suis très perturbé par ça parce que vraiment tous ces morts innocents, ça me perturbe beaucoup. Mais d'un autre côté, je comprends tout à fait que le bloc de l'Est ne puisse pas tolérer un certain nombre de décisions américaines, hein, puisque les Russes n'avaient rien dit pendant des dizaines d'années, avaient laissé faire un petit peu les choses parce que la Russie était très affaiblie économiquement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que c'est une bonne chose de rétablir l'équilibre. Maintenant, moi, vous savez, j'ai toujours cette pensée pour tous ces innocents qui meurent pour rien. Et je suis très perturbé, comme je vous le disais, parce qu'il faut le vivre sur place. C'est très bien d'en parler comme ça à la télé, à la radio, dans les journaux. Mais quand vous le vivez, quand vous vivez un conflit au plus près, on ne voit plus vraiment les choses de la même façon. Donc, même si je comprends un certain nombre de positions russes sur le dossier ukrainien ou sur un certain nombre de dossiers, moi je pense que nous sommes occidentaux et empire du milieu, hein, de Russie, tout ce que vous voulez. Je pense que malheureusement, on ne pense pas assez aux dommages causés à toutes ces générations qui vont arriver.
Merci à M. Philippe Hugon. Je repasse donc à M. Luc Michel. C'est quoi le rôle maintenant de l'Iran dans cette OCS? Quel va être le rôle joué par Téhéran face à cette organisation? Son utilité?
Écoutez, dès 2015, moi j'avais annoncé le rapprochement de Téhéran et que Téhéran allait prendre sa place en Eurasie en mars. C'est la troisième grande capitale avec Moscou et Pékin de l'Eurasie. Mais je ne partage pas votre thèse selon laquelle cette alliance serait opportuniste. En effet, il y a des affinités profondes entre Moscou, Téhéran et Pékin. Ces affinités sont géopolitiques. D'abord, ce sont trois puissances eurasiatiques dont l'alliance était commandée par la géographie. Deuxièmement, ce sont trois vieux empires de États-civilisation. Partagent donc la même vision civilisatrice par rapport à la barbarie américaine. Et troisièmement, ce sont des économies dirigées. Ce ne sont pas des démocraties libérales, contrairement à tous les pays du bloc occidental. Donc leur alliance n'est pas du tout opportuniste. Elle est déterminée par la géopolitique et par l'histoire. Maintenant, moi, je ne me considère pas comme un occidental. Je suis partisan de la grande Europe, de Vladivostok à Dublin, qui est opposé aux États-Unis. Je ne fais pas partie de cet Occident. J'ajouterai quelque chose. En Ukraine, c'est la Russie, en réalité, qui est agressée par l'OTAN. Il est temps que l'Ukraine disparaisse en tant qu'État pour que la grande Europe puisse vivre et qu'on lève l'opposition et la menace que l'OTAN fait peser sur le monde.
Donc, merci. Merci Luc Michel. Merci Monsieur Luc Michel. Je suis vraiment désolée de mettre fin à la discussion. Malheureusement, le débat se finit maintenant. Vous l'avez bien compris. L'OCS s'est passé cette semaine, jeudi et vendredi. Les grands dirigeants de cette organisation se sont rencontrés, notamment le président chinois et Vladimir Poutine, mais pas seulement. Le président chinois et Monsieur Raisi, président de l'Iran. Donc beaucoup de choses sont à dire concernant ce sommet. Nous, on s'arrête là pour ce débat. Je vous dis donc à la prochaine fois à Presse TV français, ici à partir des locaux de Téhéran.
Malgré les sanctions économiques, le rouble est-il devenu la devise la plus performante du monde? Le rouble est devenu la devise la plus performante du monde. Une information à rebours de celle concernant l'euro qui a atteint son plus bas niveau face au dollar. Comprendre par là que les sanctions économiques qui visent le Kremlin depuis 7 mois aurait plus d'impact sur l'Occident que sur la Russie. 6 mois de guerre, 6 mois de sanctions économiques pour la Russie. Si le rouble s'est fortement déprécié au début de la guerre, il a effectué un redressement historique grâce aux mesures prises par Moscou et par la Banque centrale russe. Certains dirigeants et économistes européens pariaient sur un effondrement économique de la Russie. Pour l'instant, il n'en est rien et c'est en grande partie grâce à la bonne tenue du rouble. Des taux d'intérêt réajustés chaque jour par la Banque centrale russe ont permis d'éviter les dérapages de la monnaie nationale. En mars, la Banque centrale russe, sous l'impulsion de sa gouverneure Elvira Nabiolina, commençait d'augmenter les taux d'intérêt, favorisant ainsi un rebond du rouble qui s'était effondré après le début de la guerre en Ukraine. Ils sont également imposés aux acheteurs de gaz et de pétrole russes le fait de commercer en rouble, explique Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne à Paris. Ça a permis d'accroître la demande en rouble et donc de faire remonter son cours. D'autant plus que les prix du baril et du gaz ont atteint des sommets. Il faut donc beaucoup de roubles. Ça alimente ce phénomène haussier. Le rouble s'est raffermi vers 60 contre le dollar et l'euro dans les échanges matinaux de Moscou mardi 30 août, tandis que la hausse des prix du pétrole a contribué à pousser l'indice boursier de référence de la Russie à son point le plus haut en 2 mois. Le rouble a passé la majeure partie du mois d'août près de 60 par dollar. La volatilité s'est atténuée depuis qu'il a atteint un plancher record de 121,53 par dollar. Dans le commerce de Moscou en mars, peu après que la Russie ait envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine. Il s'est ensuite redressé pour atteindre son plus haut niveau en 7 ans, à 50,1 par dollar en juin. Depuis le début de l'année, le rouble est la devise la plus performante au monde, soutenue par les contrôles d'urgence des capitaux mis en place par la Banque centrale pour tenter de mettre fin à une vente massive. Cela a permis d'éviter l'effondrement économique que beaucoup avaient prédit. Pour comprendre le redressement actuel du rouble, il faut revenir sur sa chute il y a 7 mois. Dès le début de la guerre, la devise a connu une forte dépréciation. En cause, les sanctions économiques, évidemment, ainsi que les craintes importantes des investisseurs sur la situation économique du pays. Les marchés ont commencé par boycotter la Russie, faisant fondre la valeur de sa devise. En mars dernier, elle a atteint un plancher record de 121,53 pour un dollar à la bourse de Moscou. Pour faire face à cette chute problématique, la Banque centrale russe et le gouvernement ont pris de nombreuses mesures. Parmi elles, le contrôle des capitaux. Une solution drastique, selon l'expression employée par Christophe Boucher, qui la précise. Cela passe par l'interdiction ou le plafonnement des retraits en devises étrangères dans les banques russes, l'obligation pour les entreprises russes de convertir leurs revenus en roubles ou encore l'impossibilité pour les investisseurs internationaux de vendre leurs actifs russes, liste le professeur d'économie à l'Université de Paris-Nanterre. Une stratégie qu'il qualifie d'exceptionnelle. S'ajoute à cette décision politique un phénomène économique. Le changement de vision sur les perspectives économiques russes, souligne de son côté Karl Greco, économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales, un service lié à Matignon et France Stratégie. Il relève en effet qu'avec la flambée des prix de l'énergie, dont les transactions en Russie doivent désormais être effectuées en roubles, il y a eu une augmentation de la demande pour cette monnaie. Le rouble est donc devenu difficile à vendre. Les mesures politiques poussent au contraire à son achat. Résultat, la monnaie russe a d'abord progressé en avril avant d'atteindre des sommets. C'est la logique économique de l'offre et de la demande qui se joue, mais de manière contrainte, observe Christophe Boucher. La monnaie la plus performante du monde reste de marbre face aux sanctions occidentales. Le rouble tient tête au pronostic, se négociant au plus haut depuis 4 semaines, alors que l'euro, par effet de retour de bâton, est tombé à la parité avec le dollar. Le président Joe Biden, qui soulignait fin mars que le rouble est réduit à l'état de ruine, doit revoir sa copie. Le rouble est désormais, entre autres, également soutenu par le gaz, ou plutôt par des accords gaziers. Bien que beaucoup soient maintenant gênés que l'excédent de la balance commerciale extérieure ait diminué, mais encore une fois, cela ne représente aucune menace pour le taux de change du rouble. Vers la fin de l'été, les importations augmentent fortement, ce qui ronge la devise durement gagnée. Mais la croissance des exportations ne s'est pas arrêtée non plus, même si elle est sensiblement à la traîne, mais les exportations sont désormais principalement utilisées en roubles, ce qui signifie que leur taux de change est sous une protection fiable. Le rouble n'a la perspective de chuter fortement qu'en cas de modification grave de la balance commerciale extérieure, et même alors uniquement si le rouble n'est pas utilisé à l'intérieur du pays. Et avec cela, maintenant, comme vous le comprenez, tout est en ordre. Les responsables américains ont reconnu l'inefficacité des sanctions imposées contre la Russie. De hauts responsables américains ont déclaré à CNN qu'ils étaient déçus que les sanctions imposées par les États-Unis, y compris la décision des États-Unis et de leurs alliés de couper certaines banques russes du système bancaire international, n'aient pas affecté la Russie comme prévu. Les Américains espèrent maintenant que l'effet négatif sur la Russie se matérialiserait au début de l'année prochaine et que l'économie russe s'effondrerait. Or, aux grandes dames des États-Unis et leurs alliés occidentaux, les sanctions anti-russes ont porté un coup beaucoup plus dur à leurs propres intérêts nationaux, à leurs propres économies et au bien-être de leurs propres citoyens.